Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs, donc c'est Amnesty International, pour sa seconde émission de la saison. Et pour l'animer ce soir autour des micros, il y a Dominique.
Bonsoir.
Voilà, et vous allez aussi entendre quelqu'un qui n'est pas dans le studio, mais qui nous a envoyé un petit audio. Enfin, un petit, il fait quand même 9 minutes, donc vous avez le temps de l'écouter. C'est Edith qui va vous parler, mais je ne vais pas dévoiler le secret, vous allez comprendre vous-même tout à l'heure. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, je vais vous donner une petite information qui n'est pas du tout une information amnestienne, pour une fois. C'est Dominique qui va vous présenter tout à l'heure, effectivement, qui va rentrer dans le cœur du sujet, des sujets amnestiens. Mais c'est juste pour vous dire que depuis cette semaine, depuis une huitaine de jours, la radio Principe Actif, on peut l'écouter aussi en DAB+. Alors, c'est quoi ce truc DAB+? C'est la radio numérique qui s'installe effectivement à Évreux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'on parle de radio, là c'est de la technique. La radio numérique, c'est un petit peu l'équivalent de la télévision numérique qui a remplacé la télévision analogique qui existait avant. Donc voilà, vous pouvez nous écouter en DAB+, pour ça il faut avoir un poste de radio compatible, ou installer un adaptateur sur son équipement. Moi je l'ai fait là hier sur ma chaîne stéréo, et j'avoue que le son est vraiment excellent. Donc je vous recommande de nous écouter en DAB+, sur Principe Actif, qui émet depuis la semaine dernière. Voilà, information radiophonique. On change complètement de sujet. Dominique, tu voulais nous parler, je crois, de l'Iran.
Oui, je voulais vous lire l'article, l'édito de la présidente d'Amnesty. Donc c'est sur l'Iran, ça s'appelle « La cruauté légale ». Ce 30 juillet, à 22h, les autorités de la prison d'Urmia transfèrent 3 hommes enchaînés vers le service d'exécution des peines. Devant les officiels, la guillotine leur ampute 4 doigts de la main droite. L'amputation est un acte de torture, un crime de droit international, une atteinte odieuse à la dignité humaine. Mais en Iran, les châtiments corporels sont légalisés. Ce mois de septembre marque l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini et du soulèvement « Femme, vie, liberté ». 3 ans plus tard, le gouvernement iranien poursuit son implacable traque. Il intensifie les sanctions pour des infractions aussi floues que l'inimitié à l'égard de Dieu ou la corruption sur terre. Il multiplie les accusations d'espionnage ou de coopération avec des gouvernements hostiles. Fragilisé par l'offensive israélienne de juin dernier, l'État iranien resserre son étau sur la population. Arrestations, procès expéditifs, condamnations à mort en série d'hommes et de femmes souvent torturés. Le nombre d'exécutions augmente. Il était déjà en hausse de 17% en 2024 avec 1524 mises à mort. Toute la société civile subit les mesures liberticides. Interdiction des partis politiques, des organisations et des syndicats. Répression des grèves des infirmiers, des enseignants, des défenseurs des droits du travail. Les médias sont censurés, les chaînes de télévision brouillées, les réseaux sociaux et Internet bloqués. La liberté d'expression relève désormais du rêve inaccessible. Pour une chanson critique des lois discriminatoires sur le port du voile, l'artiste Mehdi Yara a été fouetté 74 fois. Les coups de fouet sur le corps de Mehdi sont des coups de fouet contre les femmes fières et résistantes d'Iran et contre l'esprit florissant et puissant de la devise « Femme, vie, liberté ». S'insurge Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2023. Cette journaliste et militante vit sous surveillance policière constante, sa peine de prison étant suspendue pour raison de santé depuis décembre 2024. Le contrôle du port du voile s'accompagne d'arrestations, de tortures, de viols, d'intimidations. En 2023, déjà, Amnesty International dénonçait les viols commis par les forces de sécurité contre les femmes, des hommes et des enfants de 12 ans à peine qui participaient au soulèvement. L'impunité garantit la répétition des crimes. Le pouvoir iranien exerce une oppression et une domination systématique, institutionnalisée sur les femmes, les filles, les personnes LGBTI+. Ce crime contre l'humanité doit être nommé pour être combattu. Il s'agit d'un apartheid fondé sur le genre. La cruauté légale en Iran interpelle la communauté internationale. À quand une enquête indépendante et impartiale pour établir les responsabilités ? Quand les États utiliseront-ils le principe de compétence universelle pour juger les responsables ?
Merci Dominique. Juste une petite parenthèse technique. Essaye de parler plus près du micro pour qu'on t'entende.
Il est loin.
Oui, je sais. Voilà.
Je suis petite.
Donc, puisque cet article qui est paru dans la chronique mensuelle d'Amnesty International France, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le site amnesty.fr et qui se termine effectivement par à quand le jugement pour les responsables de crimes. C'est un peu dans la même idée, mais c'est à propos de Gaza. C'est difficile de faire une émission en ce moment sans vous parler des atteintes aux droits humains et bien pire qui ont lieu en ce moment à Gaza. Donc on va vous en reparler encore un peu ce soir. Et c'est à propos d'un rapport qui vient de sortir, un rapport d'Amnesty International qui vient d'être publié. Et voici donc le communiqué qui parle de ce rapport. Par leur complicité, leur soutien ou leur passivité délibérée, des États, des institutions publiques et des entreprises du monde entier permettent les violations du droit international commises par Israël ou en profitent, notamment son génocide en cours contre la population palestinienne dans la bande de Gaza occupée. Son occupation illégale de l'ensemble du territoire palestinien occupé et son système cruel d'apartheid contre tous les Palestiniens et Palestiniennes dont il contrôle les droits, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié le 18 septembre. Il est plus que temps que les États, les institutions publiques, les entreprises, les universités et autres acteurs privés renoncent à leur addiction meurtrière, et il est bien dit addiction, à leur addiction meurtrière aux gains économiques et aux profits à tout prix. Le maintien par Israël d'une occupation illégale prolongée et d'un système d'apartheid pendant des décennies n'aurait pas pu se faire sans le soutien approfondi et durable dont il a bénéficié par le biais de ses relations économiques et commerciales. Pour pouvoir mener des bombardements incessants pendant 23 mois et commettre le génocide en cours, il a eu besoin d'un approvisionnement continu en armes et en équipements de surveillance, rendu possible par des relations commerciales privilégiées et des États et entreprises prêts à fermer les yeux sur l'indéfendable. Tout cela doit cesser. La dignité humaine n'est pas une marchandise. Tandis que les mères palestiniennes de Gaza en sont réduites à regarder leurs enfants dépérir de faim dans le commerce du génocide israélien, des entreprises, notamment d'armement, continuent de récolter d'importants profits. Amnesty International appelle ses membres et sympathisants du monde entier à exiger l'arrêt immédiat de l'économie politique qui est à la base des crimes internationaux d'Israël. Le rapport du 18 septembre d'Amnesty détaille les mesures que les États doivent prendre pour respecter leurs obligations. De la mise à l'index et de l'interdiction des entreprises qui contribuent ou sont directement liées aux crimes israéliens à une législation et une réglementation efficaces, en passant par le désinvestissement et l'arrêt des achats ou des contrats. Il contient également une liste de mesures à prendre par les entreprises, comme la suspension des ventes ou des contrats et le désinvestissement. Ce rapport désigne aussi nommément 15 entreprises qu'Amnesty International a identifiées comme contribuant à l'occupation illégale, au génocide et à d'autres crimes de droit international commis par Israël. Parmi celles-ci figurent les multinationales américaines Boeing et Lockheed Martin, les compagnies israéliennes d'armement Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries, l'entreprise chinoise Hikvision, le constructeur ferroviaire espagnol. Alors, je ne parle pas du tout espagnol, mais bon. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, le conglomérat sud-coréen Hyundai, qui est bien connu par contre, constructeur aussi d'automobiles, la société américaine de logiciels Palantir Technologies, la firme technologique israélienne Corslight et la compagnie publique israélienne des eaux Mekorot. Mais ne nous méprenons pas, ces 15 entreprises ne représentent qu'un petit échantillon de toutes celles qui sont responsables d'apporter leur soutien à un gouvernement qui orchestre la famine et le massacre de civils et prive les Palestiniens et Palestiniennes de leurs droits fondamentaux depuis des décennies. Tous les secteurs économiques, la grande majorité des États et de nombreuses entités privées ou en toute connaissance de cause contribué au génocide commis par Israël à Gaza, à son occupation violente du territoire palestinien occupé et à l'apartheid imposé dans ce territoire où on en tirait profit. Amnesty International publie cette série d'appels urgents aux États et aux entreprises à l'occasion de l'anniversaire de l'adoption, le 18 septembre 2024, de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies exigeant qu'Israël mette un terme à son occupation illégale du territoire palestinien dans les 12 mois. Cette résolution, qui a été adoptée à la majorité et qui a été confirmée par la Cour internationale de justice, n'a jusqu'à présent, bien évidemment, jamais été appliquée. Et pour finir, donc, dans les mesures préconisées par Amnesty pour mettre fin à ce commerce absolument en dehors de toute moralité, et c'est peu de le dire, les États et les entreprises doivent cesser leur passivité, voire leur complaisance face aux crimes commis par l'État d'Israël. Nous avons listé les mesures que les États et les entreprises doivent mettre en œuvre immédiatement. Alors d'abord, les États et les entreprises doivent accroître leur pression économique sur l'État d'Israël. Tout transfert d'armes et de technologies de surveillance envers Israël doit cesser. Les États doivent retirer leurs investissements et cesser le commerce avec les entreprises citées dans notre rapport qui contribuent aux crimes internationaux commis par Israël. Ces mesures doivent être poursuivies jusqu'à ce que les entreprises prouvent qu'elles ne risquent plus d'être complices. Les États doivent bloquer la participation de ces entreprises aux salons commerciaux et aux rencontres avec le gouvernement. Toute subvention de recherche et activité en lien avec des organismes publics doit être arrêtée. Et un petit commentaire personnel pour finir, ne pas oublier que l'État français, grand troisième ou quatrième marchand d'armes dans le monde, l'État français continue de vendre des armes ou des pièces d'armes à l'armée israélienne et encore effectivement en ce moment. Donc nous sommes directement concernés. Il faut agir aussi envers les autorités françaises actuelles. Voilà. Donc c'était important de vous le dire. Alors, pour les anglicistes, ce rapport est paru donc le 18 septembre. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible en français, mais il est disponible en anglais et en arabe sur le site amnesty.org. Mais je pense qu'on y reviendra effectivement dans de futures émissions pour vous tenir au courant de la suite. Alors donc, je vous disais au début de l'émission qu'il y avait Edith qui nous avait envoyé un petit audio et donc elle va vous dire tout de suite ce dont elle veut vous parler.
Alors moi, je vais vous emmener au Canada. Le peuple des Wet'suwet'en, ceux qui nous suivent régulièrement, vous allez peut-être vous rappeler qu'on en a déjà parlé. C'est un peuple autochtone qui se bat contre un gazoduc qui doit passer sur ses terres. Alors ce mois-ci, dans la chronique, il y a un entretien qu'a donné Sledo, la figure majeure de la lutte des Wet'suwet'en, et ben, je vais vous en parler. Donc, il y a des questions et des réponses. Je vais faire les deux à la fois. Dans quel contexte familial avez-vous grandi? J'ai grandi dans le nord du Canada avec ma mère et ma sœur aînée sans savoir que j'étais Wet'suwet'en. Ma mère ignorait que son père appartenait à cette nation. Comme beaucoup d'enfants autochtones, elle a été placée en famille d'accueil pendant les 16 scoops alors qu'elle était bébé. C'est la rafle des années 1960. Elle savait juste qu'elle venait d'une famille autochtone, car sa famille d'accueil lui avait dit que c'était des gens mauvais, des alcooliques et qu'elle devait les éviter. En revanche, elle ignorait toute son appartenance à cette nation. Des années plus tard, elle a retrouvé ses frères et sœurs, mais pas ses parents. Ce fut pour elle source de grandes souffrances. Sa vie a été instable, marquée par l'alcoolisme et des problèmes d'addiction. Pourtant, elle nous a toujours inspirés, je suis proche d'elle. Comment cette assimilation à la culture dominante a-t-elle influencé votre jeunesse ? À la maison, on ne parlait ni des nations autochtones, ni de la nation Wet'suwet'en. Mais un jour, à l'école, un professeur nous a lancé à ma sœur et moi. « Ah, vous, vous êtes des métisses !» En effet, nous venons d'un mélange. Il faut savoir que là où j'ai grandi, à Burns Lake, un village de quelques milliers d'habitants, les gens étaient extrêmement racistes. Dans les restaurants et les bars, il y avait de fait, une ségrégation totale entre blancs et autochtones. C'était très violent. Et à cette époque, dans les années 1990, je n'avais aucune envie d'explorer mes racines d'autochtone. C'était quelque chose que je ne préférais ne pas mettre en avant, car c'était très stigmatisé. Quand avez-vous découvert votre héritage ? Bien plus tard, lorsqu'à l'âge adulte, j'étais à l'université de Victoria. Après un master en gouvernance indigène, j'ai passé une licence de sociologie et là, j'ai pris conscience de l'impact de la colonisation. Cela m'a rendue furieuse. J'ai découvert les 60 scoops et le système des pensionnats pour les enfants autochtones. Des sujets jamais abordés dans ma famille. J'ai donc reconsidéré mes propres expériences, le parcours de ma mère, ou encore mon sentiment de n'appartenir à aucun endroit, à aucune communauté. J'ai commencé à comprendre pourquoi mon peuple souffrait. Alors même que je m'étais juré de ne jamais retourner dans le Nord, j'ai passé mes étés avec ma famille, m'initiant aux activités traditionnelles comme la pêche. J'ai compris ce qui me manquait, connaître l'histoire et la culture des Wet'suwet'en, éprouver sentiment d'appartenance et entretenir une relation spirituelle à la terre. J'ai réalisé que je n'avais jamais connu ces choses essentielles qui font d'un Wet'suwet'en et Wet'suwet'en. Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir définitivement sur votre territoire ancestral ? Mes études universitaires m'ont ouvert les yeux sur l'importance vitale de la terre et de la gouvernance autochtone. Je me souviens d'un jour, en cours, où une pensée m'a frappée. Mais qu'est-ce que je fais là ? Si je veux donner un sens à tout ça, il faut absolument que je rentre à la maison, en terre Wet'suwet'en. C'est là que tout va se jouer. Ça faisait déjà un moment que j'assistais au conseil de gouvernance avec ma mère et à 30 ans, après la naissance de mon premier fils, je suis rentrée chez nous, chez moi. Je désirais qu'il grandisse en apprenant tout ce que je n'avais pas eu la chance de connaître. Comment avez-vous vécu ce retour aux sources ? Fascinée. J'ai voulu tout savoir, tout comprendre, les danses, les chants, les rites, la gouvernance, la cueillette, la chasse. Je suis devenue une éponge. Mon mémoire de master portait d'ailleurs sur la manière dont les communautés autochtones peuvent aider les personnes coupées de leur culture à renouer avec elles, en produisant des supports d'information, en les invitant à des événements, en organisant une cérémonie de bienvenue ou en favorisant leur participation aux activités culturelles aux côtés de membres plus âgés. Et aujourd'hui, les services de soutien à l'enfance de la nation Wet'suwet'en et des nations voisines utilisent ce travail pour accompagner les gens qui souhaitent retrouver leurs racines. De quelle manière vous êtes-vous investi dans la vie de la communauté ? Une fois revenu à la maison, je me suis impliqué dans la lutte contre la construction du gazoduc Coastal GasLink pour tenter d'empêcher ce projet qui menace nos terres. Nous avons occupé une partie du chantier et nous avons installé un blocage. Une opération pour laquelle j'ai été désignée porte-parole par les chefs héréditaires. L'année suivante, alors que je m'appelle Molly Wickham, j'ai reçu le nom de Sledo. Un nom qui ne m'appartient pas, mais plutôt une responsabilité que l'on m'a confiée. Une mission que je dois incarner avec dignité. Mon rôle consiste à récolter les informations des membres de la maison, à les partager avec les autres chefs afin d'éclairer nos décisions. Là, ma formation universitaire se révèle précieuse, car elle me permet de comprendre les méthodes du gouvernement et des entreprises. Je sais mieux les repérer et les décoder. Comment s'est passée cette lutte contre le gazoduc Coastal GasLink? Je voulais créer un précédent, leur montrer qu'on n'allait pas se laisser faire sans lutter. Les promoteurs du projet ont tout fait pour nous rendre la vie infernale et nous pousser à partir. Les entreprises ont embauché des sociétés de sécurité privées. Les autorités ont déployé une unité de police montée d'État au service de l'industrie. Nous ne pouvions aller nulle part sans être suivis, filmés, harcelés. J'ai moi-même été arrêtée 2 fois. Je suis convaincue que les mesures extrêmes prises contre nous étaient censées intimider les autres peuples autochtones, les dissuader de se rebeller. En quoi ce projet est-il révélateur de la politique de l'État canadien à l'égard des peuples autochtones? En réalité, ce qui se joue avec ce gazoduc n'est qu'une répétition de l'histoire. L'État ignore notre souveraineté et tente de voler nos terres et ses ressources. Cette lutte pour s'approprier nos terres est à la racine des génocides, mais aussi du placement des enfants autochtones en familles d'accueil. Cela perdure. En 2021, les enfants autochtones représentaient 7,6% des enfants canadiens, mais 53,7% des mineurs placés en famille d'accueil par le service de protection de l'enfance. Elle est également à la source de nombreux problèmes sociaux, du taux de suicide alarmant que connaissent les autochtones, 3 fois plus important que la population non autochtone. Lorsqu'on arrache les gens à leur terre, ils perdent tout lien avec leur culture, leur histoire et leur clan. Mais dans nos communautés, de plus en plus d'Autochtones prennent conscience des traumatismes infligés par l'État canadien. Et désormais, nous sommes des centaines de milliers à nous battre pour notre liberté et celle de nos terres. Alors, la situation de Swelo actuellement. Elle a été arrêtée en 2021 pour avoir défié une injonction éloignant les Wet'suwet'en du chantier du gazoduc, comme je viens de vous expliquer. Swelo a été reconnu coupable en 2024. En février 2025, un juge a confirmé que l'intervention de la gendarmerie royale qui a arrêté Swelo était entachée de propos racistes et avait porté atteinte à ses droits garantis par la charte canadienne. Alors la peine, elle doit être fixée entre le 3 et 5 septembre 2025. Bon, j'avoue que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé de retour sur ce jugement, peut-être a-t-il été retardé. Et Amnesty finit en notant que si elle était emprisonnée, Amnesty International pourrait la reconnaître comme prisonnier d'opinion. Et en France, il y a plusieurs groupes locaux qui appellent leur municipalité à lui attribuer la citoyenneté d'honneur. Voilà un récit de vie.
Bien, merci Edith, j'avais oublié de remonter la tranche de mon micro. Merci Edith. On va passer sur ce dossier concernant les Wet'suwet'en au Canada, un pays qui n'est pas connu pour ses atteintes aux droits humains, mais comme quoi il n'y a aucun pays qui échappe aux analyses d'Amnesty. Voilà. Et donc on va passer tout de suite à la première pause musicale. On se retrouve juste après.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. s'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire.
Que ma mort devienne une histoire.
Sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter un morceau que je vous avais déjà passé juste avant l'été, mais qui est fondamentalement important dans l'actualité, par rapport à l'actualité. Et c'est HK qui chante une mise en musique qu'il a fait d'un poème de Refat Alasser, qui est un poète palestinien. Donc, c'est ce poète qui a écrit ce texte, chanté par HK. Et ce poète est mort lui aussi dans les bombardements à Gaza. Voilà. Donc, une émission d'Amnesty, ce ne serait pas une vraie émission d'Amnesty si on n'y avait pas quelques bonnes nouvelles. Et c'est Dominique, malgré tout, et c'est bonne Dominique qui va vous en parler d'une.
Donc, je vais évoquer Alaa Abdel Fattah, qui est enfin libre. Alaa Abdel Fattah, prisonnier d'opinion depuis 2019 en Égypte, a enfin été libéré de prison. Après avoir été détenu 6 ans sur la base de fausses accusations, il a été gracié par le président égyptien. Alaa Abdel Fattah est un militant, auteur et développeur qui a participé activement à la révolution égyptienne de 2011. Pour ses activités militantes pacifiques et ses critiques à l'égard du gouvernement, il aura passé la majeure partie de ses 10 dernières années en prison. Il est à nouveau arrêté le 29 septembre 2019, alors que les manifestations sont durement réprimées en Égypte. Il est condamné en décembre 2021 à 5 ans de prison par une cour de sûreté de l'État sur la base d'accusations fallacieuses de diffusion de fausses informations liées à une publication sur les réseaux sociaux. Sa liberté d'expression a totalement été bafouée par le régime. Emprisonné simplement pour avoir exprimé ses convictions, notre mouvement lui a attribué le statut de prisonnier d'opinion. De nombreux citoyens et citoyennes se sont mobilisés à nos côtés dans une vaste campagne internationale pour le défendre et exiger sa libération. Durant son incarcération, il a été confronté à des conditions inhumaines. Il a été privé de son droit à consulter un avocat, n'a pas été autorisé à bénéficier de visites consulaires, ni de sortir à l'air libre et de s'exposer au soleil. Sa famille a fait part de graves inquiétudes concernant son état de santé, en particulier lorsqu'il a mené une grève de la faim prolongée afin de protester contre sa détention. Bien qu'il ait officiellement fini de purger sa peine de 5 ans de prison le 29 septembre 2024, les autorités égyptiennes ont continué à le détenir arbitrairement, affirmant qu'il serait libéré en janvier 2027. Cette décision a été prise en violation des normes juridiques internationales et du droit égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sissi a finalement accordé le 22 septembre 2025 la grâce présidentielle à Alaa Abdel Fattah ainsi qu'à 5 autres prisonniers. Cette mesure met fin à une grave injustice et témoigne des efforts inlassables déployés par sa famille et ses avocats, notamment par sa courageuse mère Laïla Souefi et par des militants du monde entier qui ont réclamé sans relâche sa libération ces 6 dernières années. Ce que nous demandons pour les prisonniers d'opinion, la libération immédiate et sans condition des prisonniers d'opinion du monde entier, l'abrogation de toutes les lois prévoyant des sanctions contre les personnes qui s'expriment haut et fort ou mènent une action de protestation non violente. Pour les actions, pour écrire, c'est amnistyfr/personne au pluriel.
Voilà. Et je crois que, Dominique, tu voulais garder la parole pour nous dire tout à fait autre chose, mais qui est important aussi.
Eh bien, je vais vous lire un deuxième article tiré de la chronique, et c'est « Protéger les mères protectrices ». Le 23 mai, à l'Assemblée nationale, le collectif Incesticide lance l'appel des 500 mamans, 500 lettres envoyées par les mères à leurs juges. Des récits éprouvants. J'ai récupéré mon bébé en sang. Il me disait qu'il ne voulait pas prendre sa douche avec son papa, écrit l'une. Malgré les éléments graves de l'enquête, vous avez rétabli l'autorité parentale conjointe, écrit une autre. Le scénario se répète. Un enfant parle, accuse son père d'agression sexuelle. La mère porte plainte. Mais la justice maintient les liens père-enfant, le droit de visite, allant parfois jusqu'à confier la garde au père. Si la mère s'y oppose, elle risque des poursuites, voire la prison. Comme Priscilla Majani, condamnée en 2023 à 2 ans et 9 mois de prison pour non-représentation d'enfants. Il n'existe aucune statistique officielle, mais les chiffres avancés par les collectifs sont glaçants. Selon Incesticide, qui dit avoir reçu 600 lettres, et l'association Protéger l'enfant, qui a étudié 1 millier de dossiers, plus d'une mère sur 2 ayant dénoncé un inceste paternel a perdu la garde de son enfant. Premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de Pontoise, le juge Édouard Durand est l'un des rares à dénoncer une mécanique judiciaire qui, trop souvent, échoue à protéger les enfants et les mères dites protectrices. Les mères pensent qu'au commissariat, au service social, au tribunal, elles seront entendues, crues et que leur enfant sera protégé. Mais souvent, l'enfant n'est pas éloigné de l'agresseur qu'il désigne et la mère est accusée de mentir ou de vouloir couper l'enfant de son père. En face, certains magistrats plaident la prudence, comme Mathieu Gnassia, juge aux affaires familiales à Paris. Chez les enfants de 3 ou 4 ans, la mère peut parfois interpréter certains signes en pensant qu'ils sont dus à un attouchement, alors qu'elle n'en a pas été témoin. On écoute sa parole, mais il faut aussi entendre celle du père, qui reste présumé innocent. Et quand on manque d'éléments, il est difficile de trancher. Pourquoi ces éléments manquent-ils ? Le juge Édouard Durand est clair. Les dossiers ne sont pas assez souvent confiés à des policiers ou à des gendarmes spécialisés. Les investigations sont trop sommaires et cela fait basculer nombre d'affaires en faveur du père. le 2 mai, après la publication par Incesticide du rapport « Inceste paternel et torture institutionnelle en France » qui dénonce un système maltraitant les mères et trahissant les enfants, le Comité contre la torture de l'ONU a lancé un avertissement à la France. Il exige des enquêtes rapides, impartiales et approfondies sur les accusations d'inceste et exhorte l'État à cesser de punir et de revictimiser les mères protectrices injustement poursuivies. En réponse, le 20 mai, Incesticide a réclamé la création d'une commission d'enquête parlementaire. Une quinzaine de députés y ont déjà apporté leur soutien. Voilà.
Merci. Effectivement, c'est important d'avoir connaissance de ce sujet-là, parce qu'on parle effectivement souvent de violences faites aux enfants, mais on n'a pas bien conscience que, au niveau des décisions de justice, ce n'est pas toujours très clair dans les conséquences pour les enfants eux-mêmes. Et je crois qu'il y avait une commission d'enquête, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui a rendu un rapport, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à la demande du gouvernement français, mais dont les conclusions ont été un petit peu enterrées, dirons-nous. Ça paraît surprenant, ça aussi. Voilà. Moi, je voulais vous parler d'un autre sujet dont on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler lors de nos émissions, et ça concerne les disparitions forcées. Là aussi, c'est un dossier qui est tiré de la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc, les disparitions forcées, on parle souvent d'enlèvements fait par les groupes terroristes, enfin, etc., d'atteinte aux droits fondamentaux, ce qui est tout à fait intolérable, bien sûr. Et on parle entre autres des otages israéliens qui sont toujours détenus à Gaza, et ça aussi, c'est tout à fait intolérable. Mais les disparitions forcées, c'est un peu la même chose, c'est un peu des prises d'otages et des disparitions de personnes, mais là, c'est fait par des États. Et bizarrement, les États entre eux, ils ont beaucoup de mal à dénoncer ces crimes-là, alors qu'ils sont beaucoup plus prompts à dénoncer les crimes commis par les terroristes. Donc voilà comment, je vais juste vous lire le début de l'article et puis la conclusion. Voilà comment ça commence. Ça se passe au Pakistan. La soirée est calme chez les Amen, dans une ville du Punjab située dans le nord-est du Pakistan. Zaïd, 21 ans, diplômé en informatique, discute avec ses parents. Il leur confie ses difficultés à trouver du travail et leur annonce sa décision, comme le cadet de la fratrie, Sadiq. Chauffeur de taxi en Arabie Saoudite, il partira tenter sa chance à l'étranger. Le billet est acheté, les bagages presque prêts. Mais dans la nuit, des coups violents secouent le portail. Une douzaine d'hommes en noir, armés et sans insigne, forcent l'entrée. Ils empoignent Zadig et l'embarquent. Hamzad, sa mère, et Gul, sa jeune épouse, hurlent à s'en briser la voix. Sultan, le frère aîné, et Khan, leur père, court dans la rue après le commando, espérant une explication. « Soyez rassurés, nous travaillons pour l'État, et si votre fils n'a pas commis de crime, nous le relâcherons vite », lance le chef avant de disparaître dans la nuit. C'était le 11 juillet 2014. 11 ans ont passé, Zaïd n'est jamais revenu. Le lendemain de l'enlèvement, son père se rend au commissariat pour déposer plainte. Les agents refusent d'enregistrer sa déclaration. Zaïd, disent-ils, serait retenu par l'État. Sa libération n'est qu'une question de temps, promet un policier. Mais les mois passent, sans nouvelles. En 2016, à bout de patience, les Amen saisissent les tribunaux. Les Amen, c'est donc la famille concernée, la famille pakistanaise. La bataille judiciaire s'avère aussi longue que ruineuse. Sultan doit vendre sa petite entreprise et rogner sur l'éducation de ses enfants. En 2017, Sadiq revient au Pakistan, donc c'est le frère de celui qui a été enlevé, Sadiq revient au Pakistan et consacre son temps à la recherche de son frère. Gul vend sa bague de fiançailles et ses bijoux afin de financer les démarches. Toute la famille prend le train jusqu'à Lahore, la capitale provinciale, pour y plaider sa cause auprès du gouvernement. Puis à Islamabad, la capitale du Pakistan, ils font le siège des ministères. De la Cour suprême, du Parlement, du Club de la presse et des bureaux de l'ONU. Leur obstination finit par payer. En 2020, un juge ordonne au gouvernement de fouiller les prisons pour retrouver Zaïd. L'espoir renaît. mais l'ordonnance du juge ne sera jamais exécutée. Les autorités restent à nouveau muettes, puis survient le pire. Le 22 juillet 2021, trois pick-up de la police s'arrêtent devant la maison familiale. Les policiers descendent, vérifient l'identité des habitants, s'installent, boivent du thé, grignotent quelques biscuits et repartent comme si de rien n'était. Un mois plus tard, en pleine nuit, les pick-up reviennent. Des hommes armés et cagoulés escaladent les murs, braquent les amènes et repartent en emmenant Sadiq. Pour la famille, c'est le coup de grâce. Moins de deux ans plus tard, en 2023, Khan, le père, meurt d'une crise cardiaque en pleine manifestation pour ses fils. Épuisé, à court d'argent, Sultan finit par abandonner la lutte. Gul, l'épouse, s'accroche encore, mais à la fin de l'année 2024, la mort dans l'âme, elle se résout à demander le divorce. Un peu plus loin dans l'article, il est dit « Pourquoi Zaïd et Sadiq ont-ils été enlevés ? Leur famille n'a pas le début d'une réponse. Saïd était un étudiant en informatique sans histoire. Depuis son retour d'Arabie Saoudite, Sadiq vivotait en travaillant sur des chantiers. Leur père n'était qu'un modeste fermier. Sultan s'interroge. Peut-être est-ce parce que nous sommes d'origine pachtoune, une ethnie minoritaire et discriminée au Pakistan. Peut-être Zaïd avait-il quelque chose d'illégal dans son téléphone. Sadiq, lui, a sans doute payé son engagement pour retrouver son frère. Sultan conclut, amer. Quoi qu'il en soit, rien ne justifie qu'on leur refuse un procès équitable. Faire disparaître les gens ainsi, c'est de la torture. Alors voilà, donc après l'article, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr ce serait beaucoup trop long, mais l'article continue effectivement en citant les propos de différents avocats qui cherchent à obtenir la lumière et la justice pour toutes ces disparitions forcées au Pakistan, avec les avancées, quelques avancées et beaucoup, beaucoup effectivement de déceptions. Mais plus tard dans ce dossier, effectivement, Amnesty fait le point sur cette problématique des disparitions forcées, qui, encore une fois, ne font rarement la une de l'actualité. Et elle rappelle qu'en 2017, l'ONU adopte la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C'est une petite révolution dans l'histoire du droit international. Pour la première fois, un crime longtemps ignoré est reconnu comme spécifique. Les États signataires s'engagent à prévenir les disparitions, à rechercher les disparus, à reconnaître le droit des victimes et à leur fournir réparation. Mais l'espoir est vite déçu. Au 30 décembre 2024, seuls 77 pays sur 193 membres de l'ONU ont ratifié le texte. Très peu, déplore Emmanuel Decaux, ancien président de 2012 à 2017 du Conseil des disparitions forcées, l'organe onusien chargé de superviser la mise en œuvre de la Convention, surtout quand on la compare à d'autres textes. Les conventions relatives aux droits de l'enfant ou contre la torture, ont, elles, été ratifiées par presque tous les pays. Comment relancer la dynamique, se demande Amnesty. Mi-janvier 2025, cette question est au cœur du premier congrès mondial contre les disparitions forcées qui se tient à Genève, parrainé par Amnesty International. Moment historique, pour la première fois, 620 invités venus de 118 pays, ainsi que 1400 participants en ligne, réunissent l'ensemble des acteurs mondiaux engagés contre ce fléau, survivants, associations de familles de victimes, ONG, représentants des États signataires et de la Convention de 2006 et experts de l'ONU. Le Congrès fait avancer la cause. Il crée un réseau de victimes en Afrique subsaharienne et renforce la participation des sociétés civiles aux travaux onusiens. Bon, je vais effectivement m'arrêter là. Amnesty, il y a eu quelques avancées, quelques pays, dont la Pologne. Je recherche la ligne. En 2024, 5 pays ont rejoint cette convention donc, contre les disparitions forcées. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la Thaïlande, du Bangladesh et de la Pologne. Alors, c'est mieux que rien, mais ça reste effectivement un traité international qui, jusqu'à présent, a été très peu signé et très peu ratifié. Et Amnesty conclut ce dossier. Je vous recommande effectivement de vous reporter à la chronique pour lire l'intégralité. Amnesty conclut ce dossier en rappelant que même la France, qui était jusqu'à présent assez phare dans, pour essayer de faire adopter ce traité et surtout de le faire appliquer par les États, même la France a eu plutôt tendance à mettre, comment dire, la pédale douce sur cette politique de ratification de ce traité. Donc voilà. Donc il y a des milliers de gens à travers le monde qui disparaissent tous les ans, dont personne ne parle, dans plein de pays, dont personne ne parle, et bien évidemment pas du tout les États qui sont concernés, ni leurs petits copains qui sont, comment dire, qui ont des traités commerciaux avec eux. Effectivement, il ne faut pas les embêter trop. Voilà. On va vous passer... Alors, on avait une bonne nouvelle, je crois. Je vais reprendre mon conducteur de l'émission. On avait effectivement une bonne nouvelle. Alors, c'est très court. Une bonne nouvelle pour compléter celle que vous avez eue, Dominique, tout à l'heure. Ça se passe en Turquie. Il s'appelle Enes Okaoğlan, défenseur des droits humains. Il avait été arbitrairement placé en détention provisoire le 5 août dernier, après avoir été arrêté à l'aéroport Denizlioğlu, je vais arriver à le dire, d'Ankara, en Turquie, alors qu'il rentrait en raison de commentaires qu'il avait fait en mars lors d'un discours devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg pour dénoncer la politique anti-droits LGBT en Turquie. Alors, il a été remis en liberté à l'issue de la première audience de son procès le 8 septembre. Donc, en fait, il n'est resté en prison qu'un mois. Mais il a quand même fait l'objet d'une action urgente d'amnistie. Dans le cadre de sa libération conditionnelle, Enes Okaoğlan doit se présenter malgré tout à un poste de police une fois par mois. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, il n'est pas resté en prison, mais c'est qu'une demi-bonne nouvelle parce qu'il est toujours l'objet de poursuites par la justice turque. Voilà, deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
I can't breathe.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Désolé pour ce petit silence. On a été pris de court par la fin du morceau. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Butt Shakers, qui est passé au dernier festival Ça sonne à la porte, et ça s'appelle Not in my name, pas en mon nom, et c'est adressé à monsieur Donald Trump. Les paroles, vous comprendrez facilement pourquoi. Voilà, on va changer complètement de pays. Là, maintenant, on va quitter le Pakistan et les États-Unis pour aller en Russie.
Sur France 5, le 21 septembre, à 1h de grande écoute, à 21h10. Il s'appelle « Politzek, les voix qui défient le Kremlin ». C'est un documentaire de Manon Loiseau et d'une cinéaste russe, Ekaterina Mamontova. Et toutes deux communiquent par messagerie cryptée pour que Ekaterina Mamontova n'ait pas de soucis. Manon Loiseau, qui a reçu le prix Albert Londres en 2006, est interdite en Russie en raison de ses films engagés comme Tchétchénie, Une guerre sans traces, Ukraine, Sur les traces des bourreaux. Donc Ekaterina filmait et vivait à Moscou à l'époque. Elle a quitté maintenant la Russie. Elle est arrivée en France quelques jours avant la présentation du film. Ce film évoque donc les Politzek, les prisonniers politiques que le régime de Vladimir Poutine tente de faire disparaître dans les entrailles de son système carcéral. Leur crime ? Une phrase contre le pouvoir postée sur les réseaux sociaux, une critique de la guerre en Ukraine, un engagement jugé subversif. Le documentaire fait entendre ceux que le pouvoir russe voudrait effacer et ceux proches, épouses, mères, qui luttent pour qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Face à la propagande d'État et à la répression, aux parodies de justice, au cauchemar absurde qu'est devenu le quotidien, le film éclaire une autre Russie, lucide, combative. Manon Loiseau dit « Je voudrais qu'on se rende compte qu'il y a dans cette société des gens qui ne sont pas dupes de la propagande de Poutine, même si beaucoup ont peur et n'ont pas les moyens de fuir. » Durant ce film, nous voyons Oleg Orlov, cofondateur de Mémorial, ce qui est une ONG consacrée à la défense des droits humains, interdite en Russie depuis 2021. Oleg Orlov est prix Nobel de la paix en 2022 et il a été condamné à 2 ans et demi de prison. Nous assistons aussi au procès, au printemps 2024, de la metteuse en scène Evgenia Berkovitch et de la dramaturge Svetlana Petrushchuk, créatrice d'une pièce sur l'embrigadement de jeunes filles par l'État islamique. Ces deux jeunes femmes sont jugées pour apologie du terrorisme, alors que cette pièce de théâtre a reçu la plus prestigieuse distinction théâtrale de leur pays. Leur chef d'inculpation, aussi absurde que le déroulement des audiences où se succèdent de pseudo-témoins à la solde du régime. Elles ont été condamnées à 6 ans de prison. Et là, elles ont été séparées et envoyées chacune dans des prisons russes. Autre personne évoquée, nous voyons aussi Irina, la mère d'Arseny, le plus jeune prisonnier politique de Russie, arrêté seulement à 14 ans. Son crime, avoir dénoncé le totalitarisme poutinien et affiché son soutien à l'Ukraine. Sa maman vit seule avec lui, elle est seule à l'élever. Et elle n'a aucune possibilité de se défendre. Ekaterina Mamontova a été arrêtée le 8 mars dans le métro, quelques jours après avoir filmé le recueillement d'anonymes autour de la tombe d'Alexei Navalny. Elle a été retenue 6 heures. Pour le pouvoir russe, c'est un acte de résistance. Résister, c'est aller soutenir les opposants durant leur procès devant un tribunal militaire. Une autre jeune femme, Sacha, a collé des étiquettes sur des produits en vente dans les supermarchés. Des étiquettes contre la guerre, le pouvoir. Elle a été arrêtée et elle se retrouve en prison. Toute la Russie ressemble à une prison. Arseny a été dénoncé par ses professeurs, ses camarades. Reconnu coupable, il a été condamné à 5 ans. Il a été battu par son co-détenu. Il a été transféré dans une colonie pénitentiaire pour mineurs dans l'Oural. Sa maman a plus de 1000 km pour aller le voir. Il y a eu des échanges de prisonniers. Sacha et Oleg Orlov sont libérés. Ils sont vite partis à Berlin, sans rien. Voilà. C'est un documentaire que vous pouvez revoir en replay jusqu'à la fin de l'année.
Oui, effectivement, moi je l'avais vu aussi le jour où ça a été diffusé. Donc quand Dominique m'a dit qu'elle voulait en parler à la radio, j'ai tout de suite dit c'est une très bonne idée. Et tu te rappelles le titre, tu l'as noté, le titre
oui,
du documentaire
Politzek, les voix qui défient le Kremlin.
Voilà, donc c'était diffusé par France 5,
France
vous retrouvez
5, oui.
En replay sur le site de France.tv ou sur les plateformes de replay, hein. C'est pas du tout compliqué.
Jusqu'au 30 décembre.
Pour le voir, et bien sûr c'est un replay gratuit, il n'y a rien à payer pour regarder ce documentaire. Alors effectivement c'est très très bien fait, et moi ce qui m'avait frappé quand j'ai vu, c'était le courage qu'a eu cette cinéaste russe,
oui,
de filmer pendant les procès, alors qu'elle risquait à tout moment d'être arrêtée. Elle devait filmer, je suppose, avec un matériel très discret, un téléphone ou des choses comme ça. Mais alors qu'elle risquait à tout moment d'être arrêtée, et s'il la prenait effectivement la main dans le sac en train de filmer ses parodies de justice, elle risquait effectivement elle-même des condamnations très lourdes. Bon, maintenant, effectivement, elle est réfugiée politique, je crois, en Allemagne ou en France, je ne sais plus. Enfin, peu importe.
En France, je crois.
En France, oui. Mm. Donc, elle était à l'abri. Mais le témoignage et l'action de cette femme est absolument, absolument remarquable. Bon, le documentaire aussi avec Manon Loiseau est très, très bien monté. Manon Loiseau qui connaît bien la Russie, puisqu'elle a été des années correspondante de presse en Russie. Donc, elle connaît très bien ce pays. Mais vraiment, le courage de cette cinéaste russe, hein, dont j'ai oublié le nom, mais c'est vraiment impressionnant. Et ça montre bien que malgré tout ce qui nous est dit, l'unanimité n'est pas du tout réelle quant à l'opinion publique russe, même si elle n'a plus le droit à cette opinion publique à la parole, n'est pas du tout réelle pour le soutien à Poutine. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont très opposés à sa politique militariste et à son intervention en Ukraine. Mais ces gens-là, on ne les entend pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Et s'ils parlent, effectivement, comme vous a dit Dominique, ils risquent fort d'aller en prison. Donc voilà, il y a un autre bouquin. Alors moi, je ne l'ai pas lu, ce bouquin, je n'ai pas eu le temps, mais il est sorti ce mois-ci, qui va dans le même sens. Amnesty en parle dans la chronique, ça s'appelle « La propagande du Kremlin au scalpel ». Le livre s'appelle « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine ». Il a été écrit par une Russe qui s'appelle Elena Voloshina. Et il est paru aux éditions Autrement, et qui explique bien aussi tous les lavages de cerveau dont s'est livré pendant les années précédentes le régime de Poutine pour faire accepter son intervention militaire en Ukraine, sous réserve de lutte contre les nazis ukrainiens qui n'existent pas, bien évidemment, mais qui montre bien comment le lavage de cerveau a opéré pour faire admettre à un certain nombre de gens que cette guerre était juste. Voilà. Donc, lisez aussi ce livre, paru aux éditions Autrement. Je vais vous retrouver le titre tout de suite. J'ai refermé la chronique trop vite, mais je vais vous retrouver le titre tout de suite. Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, aux éditions Autrement, et c'est paru ce mois-ci. Voilà, on va toucher au terme de l'émission. Il y a notre ami du laboratoire qui vient d'arriver, on le salue. On va lui laisser l'antenne avec beaucoup de plaisir juste après. Alors, quelques infos locales. Bon, notre prochaine émission de radio, c'est le mardi 14 octobre à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. L'antenne de Principe Actif en FM 102.4 et aussi maintenant en DAB pour ceux qui ont l'équipement pour l'écouter en radio numérique. Voilà, n'hésitez pas. Et on va aussi, alors on n'a pas de date, mais on sait qu'on a eu l'accord là, très, très récemment par le Cinéma Pathé. On va organiser une soirée de projection débat autour d'un film qui sort là le 1er octobre, qui s'appelle « Un simple accident ». C'est un film qui a été réalisé par un cinéaste iranien. Vous en avez parlé lors de notre dernière émission. Et on va organiser, il est soutenu par Amnesty International. Il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. On va organiser une soirée projection débat avec le Cinéma Pathé. On vous en reparlera à la radio et aussi sur nos pages Instagram et sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous pour connaître la date. Voilà. On souhaite une bonne soirée à tout le monde, aux auditeurs de Principe Actif. Dominique, tu n'avais pas d'autres commentaires à faire pour les auditeurs et les auditrices. Voilà. On se retrouve le mois prochain, le 14 octobre. Donc, bonne soirée et à très bientôt. Je me suis trompé de...
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.